Bonjour et bienvenue sur Radio Sessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 30 novembre 2024, épisode 109. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Terre du Berry. Il est 21h30, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Stéganographie et cybersécurité. Les Nations Unies lancent un nouvel organe consultatif pour la résilience des caps sous-marins. Une nouvelle campagne de phishing touche les banques japonaises. Rockstar 2FA, une plateforme de phishing as a services. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Sesame IT a publié sur son blog un article sur la stéganographie, qui est une technique de dissimulation de données au sein d'autres données, permettant de transmettre des informations sans éveiller de soupçons quant à leur existence même. Je vous propose de faire un focus sur cette technique, qui est quand même très vieille, mais assez intéressante. Contrairement à la cryptographie, qui rend un message illisible sans clé de déchiffrement, la stéganographie vise à cacher l'existence du message en l'incorporant dans un support haut tel qu'une image, une vidéo ou un fichier audio. Les cybercriminels exploitent diverses méthodes de stéganographie pour mener des attaques du type injection de contenu. Ils vont ajouter des données malveillantes dans un fichier hôte sans altérer perceptiblement son apparence ou son dysfonctionnement. Substitution de données. Modification de certaines parties du fichier hôte, comme les bits moins significatifs, ce qu'on appelle les Least Significant Bytes, c'est le LSB, pour y insérer des informations cachées. Il faut savoir qu'une variante du cheval de Troie bancaire Zeus, connue sous le nom de KINS ou Zeus VM, télécharge une image depuis un serveur distant. Cette image, apparemment anodine, contient des configurations malveillantes dissimulées via une stéganographie permettant au malware de fonctionner sans éveiller les soupçons. L'utilisation de cette technique dans les cyberattaques présente plusieurs implications. On peut dissimuler des malwares, on peut exfiltrer des données et surtout on peut faire de la communication ce qu'on appelle clandestine. En un mot, sortir de l'info sans que ça se sache. Le malware Syncrypt, identifié en 2017, récupérait un fichier zip caché à la fin d'une image JPEG et ce zip contenait des composants nécessaires à l'infection de l'ordinateur ciblé. Il y a aussi un rétexte par des chercheurs de Kaspersky qui ont observé une tendance croissante chez les cybercriminels à utiliser la stéganographie pour masquer des informations volées dans des images rendant la détection plus complexe. J'ai rencontré un cas de stéganographie dans ma carrière il y a plusieurs années chez un sous-traitant aéronautique qui a vu son carnet de commandes fondre au soleil en quelques mois. Le PDG nous a demandé d'intervenir car il commençait à se poser des sérieuses questions sur son entreprise qui était florissante et qui était à deux doigts de déposer le bilan. Il restait 6 mois de trésorerie à vrai dire. On a travaillé sur cette fuite en toute discrétion avec un dépoussiérage des différentes salles de réunion, des bureaux, de direction. On a regardé toute la messagerie, on regardait partout en dehors des heures ouvrées, on venait la nuit. Et seul le président de l'entreprise était au courant de cette prestation de service qu'il avait lui-même demandée. Et il avait dissimulé la facture sous une prestation d'infrastructure d'informatique. Après plusieurs semaines, on n'avait aucun résultat, aussi bien du côté de la sûreté que de l'IT. Et on a pu trouver la fuite suite à une erreur qu'a fait le criminel sur un fichier au niveau de la taille, à partir d'une adresse professionnelle. La fuite, en fait, provenait d'un directeur commercial qui envoyait à sa femme les appels d'offres en avance, alors qu'elle occupait un poste équivalent au sein du COMEX, d'une entreprise concurrente dont elle était la cofondatrice. Ce fut très laborieux comme forensique, surtout que les infos étaient cachées dans la liste des voyages potentiels du couple lors des échanges par mail. Ils n'avaient pas imaginé que l'on pouvait remonter l'ensemble de la correspondance et surtout faire du forensique. Alors à l'époque, vu que ça remonte à plus de 15 ans, on appelait ça faire du reverse engineering. Vous voyez comme quoi ça a changé, il y a certains mots qui ont bougé. Mais c'était terrible parce que la détection de la stéganographie, ça nécessite des outils qui sont très techniques, très spécialisés. On appelle ça la stéganalyse, donc c'est un processus qui vise à détecter la présence de messages cachés en analyse des anomalies, l'analyse statistique. Après, il y a les outils spécialisés que ça peut être StackDetect ou StackCracker aujourd'hui, mais pour nous, à l'époque, on s'est dit, mais comment on allait faire par rapport... C'était une entreprise où il y avait une centaine de collaborateurs et il n'y en avait que quelques-uns qui utilisaient la messagerie à l'époque. C'était ça là, notre avantage. Mais imaginez sur une journée le nombre d'images que vous échangez entre les images qu'il y avait dans vos signatures de messagerie, etc. C'était juste de la folie, on trouvait pas quoi. Et il s'est fait avoir, mais tout bêtement, ce pauvre homme. Je dis ce pauvre homme parce que c'est comme un teubel, mec, à la fin. Ces images faisaient que quelques kilooctets, et puis là, l'image va faire plusieurs centaines de mégaoctets. Et elle passe parce qu'à l'époque, on filtrait pas la taille des fichiers. Et là, c'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, bon, on comprend pas, ils échangent beaucoup quand même sur leur voyage. Hein, et ça venait régulièrement. Alors, ce que j'ai retenu de cet article qui est hyper intéressant de Sésame IT, alors ce n'est pas un placement de produit, hein, je le précise tout de suite. Je suis tombé sur l'article, c'était intéressant, je vous le remonte. J'ai pas d'action chez Sésame IT. L'article est à lire sans modération, c'est un sujet qui est passionnant. Mais ce qu'on retient, c'est que pour détecter ce type d'attaque, il faut vraiment s'entraîner, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. The Record nous informe que le 29 novembre 2024, soit hier, les Nations Unies, en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications et le Comité international pour la protection des câbles sous-marins, ont annoncé la création de l'organe consultatif international pour la résilience des câbles sous-marins. Ils ont des métiers formidables, ces gens-là. Cette initiative vise à renforcer la protection et la résilience des câbles sous-marins, essentiels au transit de plus de 99% des données internationales. Alors, il faut savoir pourquoi ça a été fait. Cette décision intervient surtout après plusieurs incidents récents impliquant des câbles sous-marins. Notamment, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes en Suède, en Allemagne, en Lituanie, concernant particulièrement un navire chinois, suspecté d'avoir endommagé deux câbles reliant la Finlande à l'Allemagne et la Suède à la Lituanie. L'organe consultatif, composé de 40 membres permanents et coprésidé par des représentants du Nigeria et du Portugal, se réunira au moins deux fois par an. La première réunion, qui sera en visioconférence, est prévue pour décembre, suivie d'une rencontre en personne à Abuja au Nigeria en février. Ces missions incluent l'amélioration de la sécurité des câbles, la promotion de bonnes pratiques auprès des gouvernements et l'assurance de réparation rapide en cas de dommage. Il faut savoir que selon l'ICPC, on recense en moyenne 150 à 200 incidents annuels qui endommagent les câbles sous-marins. Ça nécessite environ 3 réparations par semaine. La majorité de ces incidents sont accidentels parce que c'est causé par des ancres de navires, la pêche ou des catastrophes naturelles. Donc c'est une création d'un nouvel organe consultatif. Vous voyez, il y a des mots, on sait déjà que c'est moi j'appelle ça un organe consufflant, soulignant l'importance cruciale des câbles sous-marins. C'est le pipeau qu'ils mettent dans la partie, mais ce que j'ai trouvé dommage dans cette initiative, qui a quand même le mérite de soulever un vrai risque au niveau cyber, c'est qu'il n'y a pas de moyens réels pour agir sur le terrain. Rien n'est prévu au niveau matériel, équipe de surveillance, ainsi qu'aucune amende. C'est que du déclaratif. Et j'ai hâte de lire les premiers comptes rendus, parce que c'est des comptes rendus publics, c'est l'avantage de l'ONU et des Nations Unies, pardon. Et surtout, c'est la liste des 40 participants permanents. Alors, est-ce que nous aurons la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie? Oh, ça peut arriver qu'un ancre se détache au milieu de la mer. Les bateaux sont pas très bien entretenus, on le sait tous très bien. GB Hacker a publié une analyse sur une campagne de phishing qui cible actuellement les utilisateurs des services bancaires en ligne au Japon, en particulier les entreprises. GB Hacker, pour moi, n'est pas une source primaire ni secondaire, c'est plutôt une source tertiaire, mais pour une fois, leur article vaut la peine d'être lu. Il faut savoir que toutes les copies d'écran sont en japonais, mais on voit bien le cheminement de cette arnaque. Les attaquants se font passer pour des conseillers bancaires, contactant les victimes par téléphone pour les informer prétendument de l'expiration de leur certificat bancaire en ligne professionnel. Cette approche vise à susciter un sentiment d'urgence, incitant les victimes à divulguer des informations sensibles. Alors, après ce premier contact téléphonique, les victimes reçoivent des courriels d'hameçonnage contenant des liens malveillants. Ces courriels, conçus pour paraître légitimes, redirigent vers des faux sites web imitant les portails bancaires officiels. Et lorsque les victimes saisissent leurs identifiants, y compris les mots de passe et les codes à usage unique, ces informations sont collectées en temps réel par les attaquants. Il faut savoir que les cybercriminels utilisent ensuite ces différents identifiants pour accéder aux comptes bancaires des victimes. Là, on parle de professionnels, de grosses entreprises. Ils transfèrent les fonds vers des comptes d'entreprises non liées, contrôlés par les attaquants. C'est ce qu'on appelle de la compromission en fait avec ce que j'appelle les boîtes fantômes, mais qui sont immatriculées quand même. Cette opération hautement organisée représente une menace significative pour les utilisateurs de services bancaires en ligne, avec des pertes financières potentiellement substantielles, mais ils n'en ont pas parlé, on n'a pas le montant exact. Des chercheurs en cybersécurité surveillent activement cette campagne de phishing. Des diagrammes détaillant le processus de l'initialisation du contact à la transaction autorisée ont été partagés pour sensibiliser aussi bien le public que les professionnels. Et évidemment, en réponse à cette menace, les banques et les experts en cybersécurité du Japon ont émis des alertes à l'intention de leurs clients professionnels. En Europe, on subit déjà ce type d'attaque depuis plusieurs années sur le faux conseiller bancaire, le faux conseiller en assurance, le faux conseiller en énergie. Et ça ne va pas s'arrêter. Blipping Computer revient sur une nouvelle plateforme de phishing as a services nommée Rockstar 2FA. A été identifié comme facilitant des attaques de type adversary in the middle, ATM à grande échelle, visant à dérober les identifiants des comptes Microsoft 365. C'est passionnant comme, comme article, parce que ça va montrer le niveau de maturité, le niveau d'expertise, mais surtout le niveau technique des attaquants. Ils sont vraiment doués, quoi. Ces attaquants, donc les attaques qui vont orchestrer via Rockstar de FA, se déroulent en trois étapes. La première, c'est la distribution de liens malveillants. Facile, c'est un mail de phishing, c'est du classique. Filtrage des cibles. Avant d'accéder à la fausse page de connexion, les victimes passent par un défi Cloudflare Turnstall utilisé pour distinguer les utilisateurs humains des bots et éviter les analyses automatisées. La collecte des identifiants. Donc les victimes sont redirigées vers une page de connexion falsifiée imitant celle de Microsoft 365 par exemple. Les informations saisies, y compris les identifiants et les codes d'authentification multifacteur MFA, sont transmises en temps réel, pas dans deux heures, en temps réel au serveur des attaquants via des scripts en JavaScript et des connexions WebSocket. Mais là où ça tue, c'est là où ça fait vraiment mal. Enfin, ils vont capturer toutes les cookies de session, donc ils agissent en tant que proxy. Le serveur ATM relaie les informations d'authentification Microsoft, obtient un cookie de session valide, le transmet aux attaquants, et ce cookie va permettre un accès direct au compte de la victime sans avoir à rejouer les protections du double MFA. Il faut savoir que Rockstar de FA est une version améliorée des kits de phishing DatSec et Phoenix, apparus respectivement en début et fin d'année 2023. Et depuis août 2024, Rockstar de FA a gagné en popularité au sein de la communauté cybercriminelle, avec des abonnements proposés à 200$ pour deux semaines, donc ça fait 100$ la semaine, ou 180$ pour un renouvellement d'accès API. Les fonctionnalités mises en avant incluent un support des multiples services ciblés, donc des fameuses sociétés, il y a du Microsoft 365, il y a du Hotmail, il y a du GoDaddy, un code source et des liens aléatoires pour échapper à la détection, une intégration de CAPTCHA en utilisant Cloudflare Turnstall pour filtrer les bots, un panneau d'administration convivial, c'est terrible, ils font mieux que les produits commerciaux, avec un suivi en temps réel des journaux et options de sauvegarde, et enfin, un thème de page de connexion personnalisable, c'est ce qu'on appelle du branding automatique avec des logos et arrière-plan des organisations ciblées. Ça veut dire que si Microsoft, par exemple, change son logo ou des logos type pour une opération spéciale, le Black Friday, ce genre de choses, bah, automatiquement, le kit de phishing va se mettre à jour. Et cet article remonte que depuis mai 2024, c'est plus de 5000 domaines de phishing qui ont été associés à Rockstar de FA. C'est fou. Ça lui va bien, en fin de compte, le truc Rockstar. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé passionnant et un petit peu démoralisant, et c'est vrai que ça fait, ouais, ça pince quoi, on saigne quand on lit l'article, c'est que toutes ces campagnes liées à Rockstar de FA, ça exploite des plateformes légitimes. Et il faut voir que ça touche des plateformes comme Altation Confluence qui est utilisée pour héberger des pages wiki. On a du Google Doc Viewer, on a du Microsoft Dynamics 365 Customer Voice. C'est TrustWave qui remonte cette partie-là, ça fait mal quoi. Parce que ces méthodes permettent aux attaquants de contourner les fils de sécurité en utilisant des domaines réputés. Quand vous allez sur un Altation, un Google Doc ou du Microsoft Dynamics, vous ne dites pas « je suis en train de me faire ficher, quoi. Je suis en train de me faire avoir, je suis en train de me faire compromettre ». Mais alors que fait la police ? Elle bosse la police et Microsoft suit les développeurs et distributeurs de la plateforme DatSec, qui est le prédécesseur de Rockstar de FA. Il faut savoir qu'il y a du reuse à fond et ils ont un nom qui s'appelle le Storm 15575. Il faut retenir que cette dénomination, Storm 1575, est utilisée pour des clusters de menaces émergents et encore non identifiés. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du samedi 30 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est un peu tard, mais aujourd'hui il faisait beau. J'ai fait de la moto, j'ai fait un aller-retour en Île-de-France. C'était sympa, j'ai vu mes collègues. Un jour, je leur expliquerai que quand il n'y a pas la LED allumée sur un switch, quand il y a une fibre connectée dessus avec un JBIC et que c'est pas allumé, il n'y a pas de réseau, le port il est shut. C'est juste un message privé, donc je remercie mes collègues pour les petits déjeuners qu'ils vont m'offrir toute la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Sessort. Je ne fais pas de support sur Cisco au 07 68 72 20 09 ou sur un autre produit réseau. On est là pour vous, prenez soin de vous, à demain. Au revoir. Je le crois pas qu'ils m'ont fait déplacer pour voir un JBIC.